Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Et bonjour, c'est Flora pour l'association Éco-Citoyenneté pour ce MAG de l'environnement aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu particulier que j'ai envie de parler. Parfois un sujet tabou et pourtant c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors personnellement, moi j'ai un mode de vie écolo et je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais faire pour finalement avoir une mort écolo. Et donc je m'excuse par avance pour les auditeurs que cette émission pourrait choquer ou déranger, mais c'est une question qui me paraît importante à aborder. Donc, et puis finalement, je pense que je suis confiante parce que moi, à chaque fois que j'ai abordé cette question avec mes proches, je me suis aperçue que les langues se déliaient, donc c'est vraiment un sujet qui est intéressant à aborder. Et j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle « Funérailles écologiques pour des obsèques respectueuses de l'homme et de la planète », écrit par Brigitte Lapouche-Desjans et Laetitia Royan aux éditions Terre Vivante. Et donc pour discuter de cette thématique aujourd'hui ensemble, nous avons Laetitia au bout du téléphone et nous allons discuter ensemble toute l'émission. Bonjour Laetitia.
Bonjour, merci de me donner la parole.
Alors, une question un peu curieuse, comment est-ce que vous en êtes venue à rédiger ce genre de livre? Parce que moi, je me suis posé une question, mais j'étais étonnée en fait, de trouver un ouvrage qui traitait de cette thématique.
En fait, c'est une histoire personnelle à la base, comme pour la plupart des gens qui sont dans ce domaine et qui cherchent des alternatives. En fait, j'ai perdu mon papa il y a 6 ans, d'une mort brutale, et donc j'ai été en charge de ses obsèques du jour au lendemain. Et bon, je travaillais déjà avec la notion de la mort parce que j'étais auxiliaire de vie avec des gens malades ou en fin de vie. Mais j'avais jamais eu à gérer cet aspect-là administratif, financier, organiser des obsèques, tout le côté construction et mener d'obsèques. Oui. Donc je l'ai fait, ça a été éprouvant. Et puis ça a été difficile parce que je comprenais rien à l'époque de cet univers. Et en sortant de cette expérience, j'ai décidé dans la foulée tout de suite d'organiser mes obsèques à moi. Et pour moi, je voulais quelque chose de différent, de plus simple, de plus sobre et de plus proche de l'environnement, de mes valeurs. Donc j'ai fait une enquête que je pensais qu'elle allait être simple et rapide et qui s'est avérée être une grosse enquête au final parce que c'était pas du tout ce que je croyais. J'avais fait le choix de l'incinération. Je pensais que d'entrée, c'était plus écologique. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et puis j'ai mis le nez dans un milieu... complètement opaque et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout de connaissances, donc j'ai exploré tout ça pour pouvoir construire un projet d'obsèques personnel.
Vous avez vraiment creusé la législation en fait des obsèques?
Alors à l'époque, je n'ai pas creusé la législation, j'ai creusé toutes les options, ce qui était possible ou pas, quel impact il y avait sur l'environnement, la dimension humaine, est-ce qu'elle était prise en cause ou pas, en compte. Les lois, c'est après que j'y suis revenue. En fait, j'ai écrit un premier ouvrage suite à mon expérience, une fois que j'ai contracté mon contrat obsèque personnel. Et c'est un petit guide auto-édité à l'époque, en 2014. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer Brigitte Lapouche. Et à deux, on a repris ce sujet pour mener une nouvelle enquête beaucoup plus conséquente. Donc à ce moment-là, j'ai repris tous les textes de loi, oui.
D'accord, donc vous étiez deux pour vous appuyer.
Voilà.
Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous vouliez une incinération pour vos funérailles et vous êtes aperçu que finalement, ce n'était pas si écologique que ça. C'est vraiment quelque chose que j'entends assez fréquemment quand j'aborde le sujet. Il y a une idée reçue, en fait, sur le fait que la crémation est plus écologique que l'inhumation.
Alors oui, parce qu'en fait, comme on connaît peu de choses, on fait des raccourcis. Et à la fois, c'est vrai, à la fois, c'est faux quand on entre dans le détail, qu'on gratte un peu. C'est-à-dire qu'au présent, jusqu'à cette année, c'était faux, parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de filtre à particules pour la plupart des crématoriums. Donc, on pollue les airs et donc on pollue aussi, il y a des retombées pour les gens sur un plan local, etc. Et puis, comme c'est nouveau, comme le choix de la crémation est en forte hausse depuis ces dernières années, les études, elles sont récentes, elles se font en cours de route. Ça démarre vraiment, les études, donc on n'avait pas encore... de vraies données consistantes. Mais il y a eu un petit virage justement au moment de la sortie du livre là en octobre dernier parce que les services de la ville de Paris, les services funéraires, ont fait une enquête, ils ont commandé une enquête et finalement ce qui en ressort c'est ça, c'est qu'en l'état actuel des choses, un enterrement va être plus impactant qu'une incinération à cause de toutes les étapes. Mais si on fait certains choix, on y reviendra tout à l'heure, si on fait certains choix plus écolos, on peut être un impact équivalent pour une incinération comme pour une inhumation.
D'accord, donc à chaque étape en fait, de la démarche pour organiser les obsèques, il y a des choix qu'on peut faire. Et voilà. Ces choix ont plus ou moins d'impact direct sur l'environnement et puis sur...
Voilà, et en fait, dans l'esprit des gens, on pense surtout au moment de l'enterrement, c'est-à-dire le fait d'aller en terre ou de se faire brûler. Et c'était ça qu'on associait au fait que ce soit plus ou moins écolo. Mais en fait, il y a toute une série d'étapes. Et quand on fait un bilan sur toutes les étapes du début à la fin du processus, à ce moment-là, on a des données plus nuancées.
Alors, je voudrais revenir juste sur, du coup, l'inhumation. Peut-être qu'on peut creuser un petit peu les détails. Si je peux donner, moi, juste un sentiment personnel, vu qu'on est... J'essaye de recréer des cycles de vie dans mon mode de vie, de ne pas m'extraire, en fait, de ce qu'est la biologie et le cycle de vie. Donc, j'ai l'idée que me faire enterrer, ça me permet de revenir à la terre et puis de nourrir le sol. Mais est-ce qu'on peut avoir vraiment le moyen de nourrir le sol dans... On peut faire un choix d'inhumation où notre corps est entièrement décomposé et peut nourrir le sol?
Non, pas aujourd'hui, parce que ça a évolué. Alors justement, on en reparlera peut-être à la fin, mais c'est ce que réclament aujourd'hui les Belges avec leur idée, leur projet d'humusation, qui est une, en gros, je fais un truc au raccourci, mais une idée de compost humain pour un vrai retour à la terre. Comme on le faisait autrefois, il y a longtemps chez nous. Mais au présent, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au cimetière. Avec l'arrivée du béton, des caveaux, etc. Et en fait, on a introduit pas mal de nouveaux matériaux qui se mettent entre le corps et la terre, donc qui isolent le corps de la terre. Et puis, en plus, il y a donc, tous les accessoires annexes, comme par exemple les tombes qui sont... de marbre qui viennent de très loin. En fait, il y a plein de petits détails qui se sont modifiés dans le temps. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le corps, il n'est pas en contact direct avec le sol la plupart du temps. C'est possible de faire d'une certaine façon, mais globalement, c'est pas la mode qui est dans l'air du temps.
Oui, et peut-être déjà la première enveloppe qui entoure le corps, c'est donc le cercueil lors de l'inhumation. Oui. Est-ce qu'un cercueil est obligatoire lorsqu'on se fait enterrer?
Oui, ça faut que ça soit très clairement dit parce qu'il y a des confusions. Alors, il y a quelques exceptions particulières pour des religieux qui traditionnellement étaient ensevelis comme ça, même la terre, et qui peuvent avoir encore des dérogations. Mais pour tout un chacun aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie du cercueil. C'est une obligation légale. Et donc, ça pose problème déjà dans le symbole pour beaucoup de gens qui sont proches de la terre, notamment ceux qui sont dans les milieux du maraîchage bio, qui donc travaillent le sol en bio, qui ont des toilettes sèches, etc. Et qui disent, toute ma vie, j'ai une certaine cohérence, puis arrivé en fin de vie, on me coupe du sol.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'il y a ce cercueil qui, déjà d'office, est le premier filtre, on va dire, avec ce contact direct avec le sol.
Mais il est possible de faire des choix de cercueil qui... plus ou moins biodégradable, et donc où le contact avec le sol ne sera pas à long terme après les obsèques.
Voilà, si on s'oriente, c'est après au sein même de la contrainte, il y a des options. Donc si on va s'orienter dans ce cas vers des bois simples, plutôt du type pin, peuplier, avec des cercueils qui ne seront pas ni vernis, ni traités, ni décorés. Et on peut aussi se tourner vers le cercueil en carton, le cercueil mixte, qui est moitié carton, moitié bois. On pourra en reparler si vous voulez, mais il y a déjà ces options-là qui existent, qui font qu'on enlève des couches intermédiaires inutiles dans la dégradation, dans le processus de dégradation du corps plus du cercueil, puisque finalement les deux sont associés.
D'accord, donc c'est qu'en faisant certains choix pour nos obsèques, on peut réduire un petit peu notre impact à chaque étape.
Voilà, et donc sur le cercueil, il y a aussi tous les accessoires. Donc au niveau des poignets, il y a une obligation légale d'avoir 4 poignets, mais tout ce qui est en plus, c'est pas utile. Quand on vous propose 6, 8 ou 10 poignets, c'est facultatif. Le coussin peut être en matière naturelle, on n'est pas obligé de mettre des cajoules. Tous ces petits détails font que l'impact du cercueil dans la terre ne sera pas du tout le même, et puis la dégradation sera plus rapide. Et alors pareil pour le corps, hein. Parce que le corps, on y pense moins, mais il est chargé de plein de petites choses.
Oui, ça, nous y reviendrons peut-être en deuxième partie d'émission pour savoir donc comment le corps est conservé.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
Et bonjour, vous êtes toujours sur le MAC de l'environnement avec Flora pour parler aujourd'hui des funérailles écologiques. Et je suis en présence de Laetitia Royan qui a notamment écrit un livre qui permet de se guider à travers l'organisation en fait d'obsèques. Alors en première partie d'émission, nous avons discuté de ce qu'on pouvait choisir pour un enterrement, une inhumation, des petits détails auxquels il fallait faire attention. Et moi, je me demandais également, par rapport au cimetière en tant que tel, est-ce que déjà on est obligé d'être enterré dans l'enceinte d'un cimetière ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres choix ?
Alors, il y a une autre alternative qui est en fait à domicile, en propriété privée, mais ça, c'est assez exceptionnel. Ça se faisait plus auparavant, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, et c'est en fonction des qualités du sol que c'est accordé de façon particulière, on va dire. Mais globalement, c'est quand même le cimetière qui est vraiment le territoire réservé à cet usage. Par contre, au sein même du cimetière, ce qui a été un peu oublié, c'est la tombe de pleine terre qui correspond davantage à une démarche écolo. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, comme pour un caveau, une partie avec du béton, vous voyez, soit la semelle, c'est-à-dire au fond du trou, ou soit sur les côtés.
Donc le cercueil sera en contact avec la terre et les micro-organismes du sol qui permettent de dégrader la matière.
Voilà, la tombe de pleine terre, ça reste l'option la plus écolo, entre guillemets, en l'état actuel. Mais ce n'est pas automatique, donc c'est quelque chose qu'il faut demander. Et dans l'idéal, c'est vrai que les obsèques, c'est un projet qu'il faut avoir. Parce que quand ça se passe comme ça se passe la plupart du temps dans l'urgence, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on est brassé, au niveau émotionnel, c'est dur. Donc on n'a pas de recul et on n'est pas en état de négocier, de réfléchir correctement.
Vous dites dans l'urgence, il y a un délai pour lequel qu'on doit respecter pour réaliser les obsèques ?
Il y a 6 jours, globalement. On peut avoir une dérogation pour que ça soit plus long. Mais c'est vrai que ça nous est communiqué sur ce ton-là, sur le ton de l'urgence, il faut faire vite, il faut... Et cette urgence, pour moi, elle contribue au fait qu'il y a plein de mauvais choix qui sont faits, qu'on regrette par la suite.
Et qui est-ce qui guide quand on est comme ça dans des choix à faire pour des obsèques? Est-ce que les pompes funèbres sont vraiment suffisamment guides ou comment ça se passe en fait?
Alors, j'ai un avis partagé, mitigé, parce que par rapport à mon expérience, je les trouve à la fois, ils sont incontournables, ce sont des guides, effectivement, mais comme il y a des enjeux commerciaux, ils nous guident en leur faveur par rapport à des formules qui sont déjà existantes et établies et qui rapportent financièrement. Donc, si on n'a pas de projet, si on n'a pas réfléchi à tout ça, on fait des choix qui ne sont pas forcément des vrais choix. Et après, on est dans un milieu, là, sur ce sujet-là, où on n'a pas d'éducation citoyenne sur la question. C'est un sujet qui a été tabou, qui commence à peine à être parlé, on va dire. Hein. Je le vois au niveau des familles, c'est difficile d'en parler. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui me disent « Ton livre est super, mais j'hésite à l'offrir à mes parents ou à mes grands-parents, de peur que ça les vexe. »
Alors, c'est rigolo, parce que moi, ça a été le sujet numéro un des fêtes de Noël, et finalement, ça a bien délié les langues.
Ah ben, c'est super. Et du coup, on se rend compte que il n'y a pas beaucoup de personnes ou d'acteurs neutres pour guider, on va dire. Et donc, nous, c'est l'objet du livre. Avec Brigitte Lapouge, on avait ces démarches-là parce qu'elle a vécu des choses, j'ai vécu des choses. On s'est dit qu'on pouvait peut-être épargner aux autres certaines expériences douloureuses.
Effectivement, oui. Mais c'est vrai que ce livre est un excellent guide. D'ailleurs, il y a une petite pastille en première de couverture qui dit « guide de survie en milieu funéraire ». Je trouve que c'est vraiment... Oui, ça exprime bien...
C'était une formule qui résumait un sentiment de panique que j'ai eu au moment où ça m'est arrivé il y a 6 ans. Ouais.
Oui. Est-ce qu'on peut peut-être maintenant parler de la crémation? Donc, on a parlé un petit peu de l'inhumation. Vous disiez tout à l'heure que les fumées ne sont pas filtrées en sortie de crématorium. Donc en fait, quand on a un corps qui est plein d'éléments, parce qu'on vit tout ce qu'on vit dans la vie, et parfois on a des prothèses, parfois on a des plombages, parfois on a des médicaments, voilà, toutes ces matières, en fait, elles sont incinérées avec le corps, et rien n'est refiltré derrière.
Alors... Sur l'ensemble des crématoriums, il y a une petite partie qui avait pris les devants, qui avait décidé de s'équiper un filtre à particules. Mais la loi, en fait, elle est pour cette année, pour 2018. Il y a une obligation à l'équipement pour les structures, sachant que entre l'obligation, puis après concrètement, le fait que ça soit fait, ça met un certain temps. Donc, c'est pas tout de suite dans la minute que ça va être fait. Ce sont des équipements différents. Il va y avoir un coût financier nouveau. Et puis, ça a évolué au fil du temps parce que on ne se rendait pas compte au début de la crémation qu'il y avait cet impact-là sur l'air. C'est au fil du temps qu'on s'en est aperçu et qu'il y a eu des remises en cause. Il y a certains pays qui ont pris du vent. Nous, on traîne un peu la patte, mais voilà, maintenant, il y a une loi qui va nous obliger à changer.
Et j'imagine que là, encore une fois, le choix du cercueil est important, en fait, pour l'impact. Moins on a de détails, d'objets et de matières.
Tout à fait. Et alors, le choix du cercueil impacte. Après, dans les choix philosophiques, alors je précise bien que chacun est libre de choisir entre l'inhumation et l'incinération. Nous, il n'y a pas de parti pris dans le livre. Ça, c'est un choix philosophique. Par contre, on donne des éléments d'analyse par rapport à l'environnement. Et donc, il y a les cercueils, mais il y a aussi le corps humain. Est-ce qu'on va choisir des soins de thanatopraxie ou pas, qui ne sont quand même pas anodins?
Alors, en quoi consiste-t-il? Est-ce que vous pouvez nous détailler?
Oui, alors ce sont les soins de présentation pour conserver le corps dans un état pour que la personne soit un petit peu plus jolie et plus fidèle à ce qu'elle était pendant quelques jours. On met dans le corps un certain nombre de produits à base de chlore et de formol pour fixer le corps. Ça, c'est pas anodin du tout. D'ailleurs, c'est reconnu cancérigène pour les praticiens, les thanatopracteurs, ceux qui font cette opération sur le corps. Et c'est tout à fait facultatif, excepté, bien sûr, dans certaines situations. Il y a des situations où ça, c'est nécessaire. D'une façon globale, c'est quelque chose d'accessoire. On le fait juste pour l'œil, pour quelques jours, avant de fermer le cercueil. Ça a un impact au moment de la crémation pour la pollution des airs, mais aussi côté cimetière pour la pollution des eaux, pour les nappes phréatiques, etc. Ces substances chimiques, elles ne se volatilisent pas comme ça en deux minutes. elles sont présentes.
Donc ça, il faut bien être conscient que ce n'est pas obligatoire. Donc au moment du choix, voilà. Ne pas se laisser avoir, entre guillemets, ne pas se laisser emporter pour prendre cette option-là.
Voilà, il y a quand même, oui, certains mensonges qui circulent, comme quoi c'est obligatoire, etc. Non, c'est pas obligatoire, excepté les cas très, très particuliers. Quand on va à l'étranger, par exemple, quand on transporte un corps à l'étranger par avion, etc. Et puis après, c'est vrai que vous parliez de ce qu'il y a dans notre corps par rapport à la vie qu'on a eue, ça peut être des hormones par rapport à la pilule ou à des traitements, des antibiotiques, des prothèses, du plomb, il y a aussi les vêtements qu'on porte. Et puis, il y a un petit détail aussi qu'on oublie, c'est les cadeaux qu'on met dans le cercueil avant de le fermer. Et on se retrouve avec des situations parfois très graves, quand il y a des objets qui sont mis, bien sûr, en mémoire de la personne, hein, avec beaucoup d'amour. Mais ces objets-là n'ont rien à faire dans un cercueil qui va être incinéré. Je pense à un casque moto ou un fusil chargé, etc. Ce genre d'objets qui vont avoir un impact sur l'environnement et qui peuvent en plus être très dangereux pour la structure.
Oui, effectivement, oui, j'imagine un fusil qui incinère.
C'est déjà arrivé, malheureusement, oui, il y a eu des gros soucis, parce qu'en fait, les responsables de crématorium ne savent pas ce qu'il y a dans le cercueil, puisqu'il arrive fermé. Et pour l'instant, il n'y a pas de réglementation de ce côté-là, donc, et on n'ose pas trop dire aux gens ce qui est possible, pas possible, sur les petits détails, mais ça a vraiment son importance.
Très bien. Nous allons faire la 2 secondes pause, et nous verrons la suite ensuite.
Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Les vivants croient que je n'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse et d'ailleurs, je les enterre à contre-cœur. Je suis un pauvre fossoyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi. Ils me disent, mon vieux, par moment, t'as une figure d'enterrement. Je suis un pauvre fossoyeur. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel. Et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur. Ni vu ni connu, brave mort, adieu. Si du fond de la terre on voit le bon Dieu, dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur.
Et vous êtes avec nous pour la 3e partie du MAC de l'environnement qui parle aujourd'hui des funérailles écologiques. Quel choix peut-on faire ? J'aimerais maintenant, cette 3e partie, qu'on parle un tout petit peu du côté économique, en fait, que peuvent avoir, l'avantage économique que peuvent avoir les funérailles écologiques.
Alors oui, en fait, on peut résumer la situation en quelques mots en disant que la simplicité, ça va conjuguer à la fois le côté économique, on fera des économies, et le côté écologique. Si on va vers un cercueil très simple, très sobre, si on organise nous-mêmes la cérémonie dans le cas où elle est laïque, parce que quand c'est religieux, c'est délégué au curé, si on s'investit, etc., on peut obtenir des obsèques pas très chères. Le capital obsèque, qui est le fait de souscrire financièrement à l'avance, n'est pas obligatoire, le contrat obsèque non plus. Après, il peut y avoir des avantages parce que les proches n'ont pas forcément envie de prendre en charge ces obsèques-là. Mais si c'est parlé à l'avance, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. On peut tout simplement mettre de l'argent de côté sur un compte normal ou sur un compte solidaire et éthique si on veut aller jusqu'au bout de la démarche. Et en étudiant les choses, on peut avoir un petit budget au lieu du gros budget actuel qui est présenté.
Moi, ce que j'entends aussi beaucoup dans ce que vous dites, donc du côté économique comme du côté écologie, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est de préparer ses propres obsèques à l'avance, d'une pour simplifier la tâche à la famille et puis pour être au top de ce qu'on souhaite réellement et de ce qu'on peut dépenser financièrement.
Oui, ça fait vraiment une différence. Et sachant qu'en plus, c'était le cas pour moi, comme j'ai souscrit jeune, j'avais 38 ou 39 ans, j'étais dans une grille de prix très faible par rapport à la moyenne des gens qui commencent à s'y intéresser entre 60 et 80 ans. Parce qu'en fait, il y a une grille qui est établie, et plus vous êtes vieux, plus c'est cher, pour la même formule. Donc voilà, il y a des trucs à prendre en compte. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi de parler des volontés, de ce qu'on souhaite pas. Si c'est pas écrit, si c'est pas un peu formalisé, c'est très difficile pour la personne qui est en charge après l'organisation d'être fidèle
à volonté, oui. Voilà. On va devoir s'arrêter sur ce sujet sur lequel on pourrait finalement parler des heures et des heures, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On n'a pas abordé tout ce qui était ambiance, tout ce qui était floraison, et je pense qu'il y a de nombreuses questions qu'on peut se poser à ce niveau-là. Moi, j'avais envie de faire une petite ouverture aussi sur un rituel qui se fait au Tibet, où c'est encore une autre alternative à l'enterrement et à l'inhumation, où en fait, les belles écorces sont données aux vautours, donc on est aussi dans un cycle de vie où finalement... on nourrit un autre prédateur et on est dans le cycle de la vie. Bon, ça, c'est une ouverture qui est dans un autre état d'esprit. Mais j'avais juste envie de le citer.
Il y en a à travers le monde, oui.
Oui, on pourrait vraiment creuser cette question. Je vais vous remercier, Laetitia Royan, pour votre temps et puis pour ce livre vraiment qui est très, très intéressant. Je conseille, c'est pas toujours quelque chose de gai à avoir sur sa table de chevet, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis, je vais remercier Jérôme à la technique. Et puis, aux auditeurs, je voulais vous dire que si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, Flora au 06 82 51 05 38. Et vous pouvez aussi retrouver l'émission sur le site d'Éco-Citoyenneté, sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez la réécouter en podcast. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. On sera tout à votre écoute. Je vous souhaite une belle journée.
C'était le MAC de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbouno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.